$500.
J'offre 5 000 $.
Vous avez bien dit 5 000 $?
J'ai la somme ici. La prime pour la capture de cet homme est de 5 000 $.
Un certain Judas a trouvé que $30, c'était tout à fait suffisant.
Il n'y avait pas de dollars à cette époque-là.
Mais des fils de pute, ça, il y en avait.
Ah, ils vont se multiplier!
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le dos.
Una, all, two, vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Una, all, two, vous. Now, go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Quand on me dit que je suis le père du western italien, je réponds combien de bâtards ai-je engendré? Beaucoup, dirions-nous, lui reste unique, Sergio Leone. Une révolution dans le cinéma, narratif, visuel, sonore. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Revoir ses films, redécouvrir la puissance de son imaginaire, la force de son regard, son univers ludique, violent, nostalgique, grâce à une exposition et une rétrospective à la Cinémathèque française, Il était une fois Sergio Leone, à partir du 10 octobre et jusqu'au 27 janvier 19. Bonjour Jean-François Roger.
Bonjour.
Directeur de la programmation de la Cinémathèque, Leone, à propos duquel vous signez un chapitre dans ce grand catalogue et vous animerez également une conférence, Leone, à la recherche du temps rêvé. Mais Leone serait-il Leone sans Morricone? Bonjour Thierry Jousse.
Bonjour.
Critique, réalisateur, producteur à France Musique dans Ciné Tempo et amoureux de ce grand alter ego musical, Ennio Morricone, que vous avez découvert à 9 ans sur un 45 tours, un certain son d'harmonica. Merci à tous les deux d'être là pour nous raconter votre Sergio Leone. Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi de cinéma à mine en tête, Nos batailles, une belle découverte et à côté Une Star is Born, Chris the Swiss, Des Ramen, Chili Gonzalez, Auckland ou 16 levées de soleil, c'est parti.
Ari, ricordate di portare la bicicletta. Ci vuole la bicicletta. C'è stato pure lì, no?
La bicicletta? Ce l'ho e non ce l'ho. Subito, no?
Allora, lì, ci sta bicicletta, c'è sta o non c'è sta?
C'è sta, c'è sta. Stamattina mi presento.
Ma no, a capo non va, ce l'avevo subito. Ma che, me li posso fabbricare io i posti?
Pourquoi démarrer une émission sur Sergio Leone avec le voleur de bicyclette? Eh bien, parce que Leone, à 18 ans à peine, s'est retrouvé figurant et aussi assistant sur ce film et déclarera plus tard qu'il avait plus appris en quelques semaines avec Vittorio De Sica que durant les années suivantes avec les grands réalisateurs américains. Jean-François Roger, Leone, avant de faire des films, avait surtout une immense culture de cinéma.
Oui, puis il était né dans le milieu du cinéma. Oui. Son père était réalisateur de films, donc
Vincent
on peut dire
Leone.
Aussi que voilà, c'est un pistonné en fait, Leone. il rentre dans le cinéma parce que il a été élevé dans le cinéma, donc tout à fait naturellement, il devient assistant. Sa mère était actrice, ouais. Son père réalisateur, ouais. et son père avait fait des westerns muets, hein, donc
oui.
ça remonte à loin tout ça. Enfin, on peut faire une généalogie de tout ça, mais en tout cas, oui, il est né dans le milieu du cinéma, il vit là-dedans, il respire le cinéma et il respire aussi la culture américaine qui est difficile d'accès pendant le fascisme et il se nourrit, il s'enivre de bandes dessinées et de westerns lorsque c'est à nouveau américain, lorsque c'est possible de le faire.
Oui, il a lu Dos Passos, Hemingway, Fitzgerald, Chandler, enfin il connaît à peu près tout, il a vu. Il paraît que ses premiers films qu'il a vus, c'est La Chevauchée Fantastique de Ford, mais aussi il y a un grand exemple au-dessus de lui, c'est Chaplin, dont il s'inspirera aussi.
Oui, il cite beaucoup Chaplin comme un modèle pour son cinéma. Encore que quand on voit ses films, on pense aussi à Laurel et Hardy beaucoup, notamment dans les gags slow burn, la façon dont le temps s'étire et la réaction ne vient pas tout de suite lorsque et pour quelques dollars de plus, Clint Eastwood tire sur le chapeau de l'Ivan Cliff, qui le remet sur sa tête et qui tire sur celui de Clint Eastwood, etc. Enfin, et de la même façon, la rencontre entre Rod Steiger et James Coburn dans Il est une fois la Révolution, ouais. Ça fait penser à Laurel et Hardy.
Avant de faire du cinéma, il a été assistant sur 58 films, c'est-à-dire qu'il savait, il connaissait à peu près l'ampleur du métier, diriger des figurants, diriger des secondes équipes, ses lectures, sa cinéphilie, il avait déjà toute sa formation avant de faire un film.
Oui, bah parce que, enfin, c'était, il a été assistant de grosses productions, oui, en fait, dans les années, ouais, 50, parce que Hollywood délocalise ses tournages dans les années 50, dont tourne beaucoup de films épiques, de péplum et de choses comme ça, et ça donne l'occasion à Léon de rencontrer des cinéastes qu'il admire beaucoup, comme Fred Zinnemann, ou bien Robert Aldrich. Et en fait, ça se passe pas forcément bien. C'est-à-dire, d'abord parce que les Américains le considèrent comme un petit Italien, qui aime le cinéma, mais il y a un peu de mépris, ou en tout cas un peu d'indifférence. Et puis, il se rend compte aussi que les méthodes de tournage des Américains, ça sera pas les siennes. Enfin, c'est pas comme ça qu'ils voient le cinéma. Donc, c'est une rencontre intéressante parce que, où l'admiration est parfois un peu déçue.
Il aura tourné donc au début Les Derniers Jours de Pompéi, Sodome et Gomorre, Le Colosse de Rhodes. On va un petit peu passer au-dessus pour arriver à celui-là, Un Poncho, Un Cigario, Un Regard d'Acier. Eastwood, l'affiche donc du premier western de Léon, pour une poignée de dollars. En fait, c'est un western qui vient de loin, qui vient de Kurosawa.
Oui, c'est un western.
Le garde du corps.
De façon très, très, très évidente, c'est un remake de Yojimbo d'Akira Kurosawa que Léon avait découvert au cinéma quelques années auparavant. Et il s'est dit, bah, pourquoi pas le refaire en western? Alors, pourquoi faire un western aussi? C'est bizarre de voilà, alors, c'est pas le premier western italien, premier western spaghetti, comme on disait un peu, avec un peu de mépris à l'époque, à être tourné en Italie, mais c'est celui qui va rencontrer le plus gros succès. C'est la naissance du western italien. Elle est née d'un manque. C'est quand on tourne plus de western à Hollywood, ou alors c'est pour la télévision. Ouais. Et en fait, le public italien adorait les westerns, et ça avait toujours beaucoup de succès. Ils se sont dit, faisons-en nous-mêmes. Et lorsque Léon tourne des péplums en Espagne, il s'était dit d'ailleurs, c'est des paysages formidables pour tourner des westerns. Donc, l'idée un peu est née comme ça. Et vous avez raison de citer Yojimbo de Kurosawa, ouais, qui lui-même est inspiré de La Moisson Rouge de Dashiell Hammett. Et on cite aussi Goldoni. Ouais. Picaresque. Enfin, il y a beaucoup d'influences diverses, mais ce n'est pas seulement ce qui est intéressant pour une poignée de dollars. L'influence n'est pas seulement l'histoire. C'est pas seulement l'histoire, le récit qu'il aura pris à Kurosawa. C'est aussi des idées de mise en scène. Mmh. Il y a quelque chose d'un peu japonais dans la mise, ouais, en scène chez Léon. L'architecture, ouais, la gestion de l'espace, qui donne une curieuse sensation de distanciation, en fait, chez Léon. Et donc, on peut dire que le rapport avec le cinéma japonais, il est plus fort que la simple imitation, ou que la simple idée de raconter la même histoire.
Thierry Jousse, vous avez choisi justement ce générique de Pour une poignée de dollars, qui est la première collaboration, mais Morricone avait composé la musique avant.
Non, pas sur ce film-là.
Le film, mais cette musique existait déjà ou pas?
Je crois pas, non, parce qu'en fait, Léon et Morricone s'étaient déjà rencontrés
à l'école.
Fort longtemps avant, à l'école.
Léon s'en souvenait plus, mais Morricone s'en souvenait bien.
Voilà, il raconte Léon dans un livre, dans de grands entretiens avec Sergio Léon de Noël Simsolo, qui effectivement, il a entendu les premières musiques de Morricone, qu'il aime pas tellement d'ailleurs, qu'il même trouve assez mauvaises, mais enfin, il décide quand même de le rencontrer. Et effectivement, dès qu'il arrive chez lui, Morricone lui montre la photo où ils étaient en classe ensemble. Donc
déjà des sifflements dans la musique.
Il y a tous les éléments un peu qui vont faire l'originalité de la musique de Morricone pour Léon, et en particulier les sifflements dans la version du film, du générique, parce qu'on voit c'est un générique assez original, puisque c'est un générique en sorte d'ombre chinoise animée. Donc ça, c'était déjà la première fois qu'on faisait ça. Et puis il y a effectivement des coups de pistolet, il y a toute une dimension de bruitiste presque dans la musique, et très mélodique en même temps, qui est vraiment la marque de fabrique à la fois de Morricone et de Morricone chez Léon en particulier.
Alors Léon réinvente le western, voilà ce qu'il en dit dans cet entretien avec Jacques Chancel.
Le western, c'est un fable merveilleux. Et alors, les dernières années, j'ai trouvé que les Américains en avaient oublié cette façon de faire. Et alors, moi, que je suis italien, j'ai tenté de réinventer une fable. Et alors, je crois que ça va pas la peine d'avoir la nationalité américaine pour une fable.
Mais l'âme italienne, qu'est-ce qu'elle a apporté au western américain?
Vous savez, je me suis formé dans une école néo-réaliste. Et alors, je vois avec des yeux européens et surtout avec un peu plus de réalité. Ça veut dire que c'est une fable mélangée, si vous voulez, à la réalité.
Il parlait bien français, Léon. Hein. Mmh. D'ailleurs, on vous l'indique dès maintenant, tous les extraits seront en français parce que Léon y tenait particulièrement au doublage, qu'il contrôlait jusqu'au bout en espagnol, en italien, en français et en anglais, Jean-François Roger. Hein. Et puis, oui. On l'a vu, ces films en français.
Bah, ça, dans le cinéma italien, il n'y a pas de version originale, puisque là, non, surtout sur ces films-là, où il y a des acteurs qui venaient du monde entier, beaucoup d'acteurs italiens, mais aussi espagnols, et puis des Américains, évidemment. Donc, c'était chacun tout parlait dans sa langue, tout était post-synchronisé. Et en fait, les meilleures post-synchronisations, c'est les post-synchronisations italiennes et françaises, qui sont en général mieux mixées que les post-synchronisations anglaises. Alors là, pour Léon, il faisait vraiment un effort important, donc elles sont toutes très très bien.
C'est important ce qu'il dit sur réinventer une fable, c'est un conteur, Léon.
Oui, c'est un conteur, mais surtout, enfin, il s'est beaucoup amusé à ne pas raconter les mêmes histoires que le western américain, qui d'ailleurs était en crise depuis longtemps, qui se posait beaucoup de questions.
Ni le parodier.
Surtout pas. Mais quand on pense au western des années 50, par exemple, au film avec James Stewart, qui était un héros très névrosé, enfin, tous les grands récits de l'ouest américain devenaient moralement, étaient questionnés, etc. Donc, d'une certaine façon, ça annonçait le déclin du genre. Donc lui, Léon, il va reprendre le western, mais il va le prendre un peu à côté. C'est-à-dire qu'il va inventer des personnages qu'on ne trouve pas dans le western américain. Je pense par exemple à celui du chasseur de primes. Je pense aussi à l'idée de rédemption. Il y en a dans les westerns américains, l'idée de rédemption est totalement absente du western italien, par exemple. Et donc, on peut aussi se dire... Au-delà de tout ça, c'est à quoi correspond le western italien. Il naît au début des années 60, l'Italie dans une période de prospérité économique. Et en fait, le western italien, c'est le cinéma de cette euphorie aussi. Et d'une certaine façon, qu'est-ce que c'est le chasseur de primes, ce personnage? C'est celui qui crée son entreprise. C'est celui qui, voilà, pour lui-même. Il y a ça. Et puis, il y a l'utopie collective. Il y a les autres, il y a les westerns révolutionnaires, etc., qui racontent un projet d'émancipation collective. Ouais. Donc, on est dans une période d'euphorie qui va disparaître parce que ça commence avec la crise économique, avec les premiers attentats, l'attentat de la gare de Milan en 69, etc. Donc là, l'Italie rentre dans une période de peur. Et là, tout d'un coup, ça change. Le giallo et le film policier remplace le western. Donc le western, c'est une période, c'est aussi sa tombe à ce moment-là. Quoi.
Et c'est un ouest multiethnique aussi.
Oui,
et sans indien, parce que c'est pas
voilà, il y a pas
d'indien,
la question noire non plus est pas au centre du cinéma italien. Je suis pas sûr qu'il soit spécialement multiethnique le western italien.
Ah, il y a Woody Strode, un acteur noir dans Il était une fois dans l'Ouest.
Ah, oui,
sergent noir dans Ta fille de John Ford
qui disparaît au bout de quelques minutes, oui.
Bon, il y a une violence nouvelle aussi dans ces westerns, il y a des tronches, il y a un anti-héros, il amène énormément de choses, Léon.
Non, j'allais dire un mot. Ce qui est marrant avec Léon, c'est que c'est à la fois un cinéaste qui vise à plus de réalisme, parce que quand même il a dit, hein, enfin il y a peut-être l'influence de Sica, j'en sais rien, mais enfin en tout cas à vouloir montrer l'Ouest d'une façon comme on l'a jamais vu avant, donc sur un mode plus réaliste, mais en même temps c'est complètement à réinventer, c'est complètement stylisé, c'est plein d'artifices, c'est plein de trucs, on pourrait dire presque, et du coup ça, c'est ce mélange des deux chez lui, ça donne quelque chose de très étrange où effectivement la musique participe de cet ensemble là quoi.
Le réalisme, il est du côté de la sensation chez lui, c'est-à-dire la poussière, la boue, la saleté, enfin, et puis en même temps, on est dans un monde totalement irréaliste, un monde rêvé, un monde fantasmé, un monde, plein de choses trappes, de trompe-l'œil. C'est, on est entre le, c'est très curieux parce qu'il y a de la pop culture chez Léon et en même temps, il y a quelque chose qui vient de loin dans le cinéma italien.
On va passer à ce qui serait peut-être les adieux de Léon au western. Il était une fois dans l'Ouest. Thierry, c'est vous qui avez choisi ce thème ultra célèbre.
C'est un thème qui figure dans Il était une fois dans l'Ouest. C'est le thème donc associé au personnage du Cheyenne, donc joué par Jason Robards, qu'on voit apparaître au bout de, je sais pas, une vingtaine de minutes de film à peu près, dans une séquence où il entre dans une espèce de je sais pas quoi d'ailleurs, de bar un peu assez obscur dans tous les sens du terme et assez sale évidemment comme souvent chez Léon. Et il y a cette musique et il y avait effectivement l'idée dans ce film en particulier que chaque, enfin il y a un thème pour chaque personnage important. Il y a le thème de Claudia Cardinale, évidemment l'homme à l'harmonica, ça c'est lié à Charles Bronson. Donc il y a une, toute une dimension un peu narrative dans la musique de Morricone dans ces films-là. Et puis effectivement, ce dont on peut parler, c'est qu'à un moment donné, Léon, qui a été satisfait du travail de Morricone très rapidement, enfin qui, je pense que la musique de Morricone a participé aussi du succès énorme des films de Léon, il a demandé à Morricone effectivement de faire d'écrire les musiques avant le tournage, à partir de Pour l'avouer t'es le truand, et du coup ça détermine aussi sa mise en scène, c'est-à-dire que finalement comme il y a une espèce de fusion entre les deux quand même, Morricone Léon, qui est assez rare dans le cinéma à ce point-là, du coup si vous regardez le début ou pratiquement le début de Il était une fois dans l'Ouest,
l'arrivée avec le cardinal,
pas le début parce qu'effectivement le début il n'y a pas de musique, c'est une symphonie de sons concrets
extraordinaire,
ou d'ailleurs Morricone avait composé à la base une musique et finalement Léon l'a pas prise et Morricone a trouvé que Léon avait très bien fait. Et donc il y a effectivement ce plan magnifique où la caméra s'élève pour découvrir un peu la ville dans laquelle arrive Claudia Cardinale.
Et le crescendo arrive en haut de la grue.
Voilà, et là incroyable. On sent que le mouvement de caméra il a été fait avec la musique, parce que la musique était diffusée sur le plateau et donc Léon raconte d'ailleurs que Henri Fonda était assez dérangé par la musique, il comprenait pas pourquoi il y avait cette musique, puis à la fin finalement il finissait par vouloir absolument la musique à tout prix, parce que ça détermine quand même.
Ça renseigne beaucoup sur les personnages, en fait. Ça leur donne des dimensions qu'ils n'ont pas forcément, ni dans les dialogues, qui sont assez pauvres.
Il n'y a pas beaucoup de dialogues, de toute façon, dans les films de Léon.
Et donc la musique vraiment renseigne, quoi, beaucoup.
Ah bah oui, elle dit quelque chose tout le temps, quoi, de toute façon.
On va écouter Ennio Morricone sur sa collaboration avec Léon.
Un film a deux paramètres de...
Il y a deux façons de recevoir un film pour le spectateur, la vue et l'ouïe. La vue représente 50%, l'ouïe l'autre 50%.
Quello che riguarda l'organo dell'udito rappresenta per me il 50%.
Mes méthodes de travail avec Sergio tiennent compte de cette théorie, qui porte ses conséquences sur le plan pratique. Tous les metteurs en scène ne tiennent pas compte de cette théorie, sans doute peu importante pour eux. Et il est clair qu'avec les autres, je ne travaille pas comme avec Sergio. Moi, je travaille en tenant compte de cette exigence. Pour la méthode, je commence à travailler. Sergio me raconte l'histoire, me montre ou m'indique les cadrages. Il fait toute la mise en scène pour moi. Et connaissant son style, je sais bien comment sera filmée la séquence. Je commence à écrire la musique, lui me dit non. Et je continue à écrire et lui continue à dire non. Et comme ça, on avance un bon moment jusqu'à ce qu'il dise enfin oui.
Thierry Jousse, en fait, Léon utilisait la musique quand il ne voulait plus faire parler ses acteurs.
Oui, mais comme il ne faisait pas beaucoup parler, il y a beaucoup de musique. Non, mais il y a une dimension. Alors, je sais que Léon, lui, il n'aime pas le mot opéra, parce qu'il parle plutôt de concerto, à propos, je crois que c'est dans le bon La Brute et le Truand. Mais on peut pas ne pas penser quand même à une dimension opératique. Enfin, ça a été dit souvent sur Léon, mais il est clair que la musique a quand même une dimension de cœur, comme ça, je sais pas comment expliquer exactement, mais enfin, elle accompagne les actions, les personnages, elle est présente, elle est un personnage du film. Donc, du coup, la dimension de l'opéra, c'est vrai qu'à un moment donné, dans toujours le même livre de Noël Simsolo, d'entretien avec Sergio Leone, lui demande s'il a pas été la tentation de faire un opéra au cinéma, et il a dit qu'il voulait faire Carmen, mais finalement que ça s'était pas fait. Et qu'au fond, il aime pas l'opéra. C'est assez paradoxal. Parce que quand même, quand on voit ces films, il y a quelque chose qui semble venir de là, indéniablement.
Je voudrais vous faire écouter encore à nouveau Morricone, mais sur un élément très particulier de la musique d'une fois dans l'Ouest.
L'armonicista non solo era...
Sergio Leone voulait que le joueur d'harmonica produise un son très particulier, qui n'était pas une mélodie, seulement trois notes. Malgré les explications, le musicien n'y arrivait pas. Alors, il a eu cette idée de lui serrer le cou. C'était pour trouver un son qui corresponde à l'image. Le musicien se sentait étranglé. Moi, je n'aurais jamais pensé à un truc pareil.
Vous aviez ça, Thierry?
J'avais entendu parler de cette histoire. Bah oui, la fin justifie les moyens, on va dire, en quelque sorte.
Alors, je disais, Jean-François Roger, c'était un petit peu les adieux de Léon au western. Dit le rythme du film cherchait à évoquer les derniers râles d'un mourant. Là, c'est Léon qui le dit. Et avec très, très, très développé la notion d'étirement du temps dans ce film.
Oui, bien sûr. C'est celui-là. Il est sur l'Ouest et Il est sur la Révolution. C'est un film remarquable parce que toutes les situations sont étirées. Mais après, il y a des ellipses incroyables. C'est-à-dire que on est sur des blocs d'espace-temps comme ça qui sont très longs, mais en même temps qui s'arrêtent de façon abrupte et on passe à autre chose. Et ça, le modèle, je pense, c'est la Dolce Vita de Fellini. On en parle peut-être pas. Je sais pas s'il en a parlé, mais la Dolce Vita de Fellini est un film qui est construit sur de longues séquences qui tout d'un coup on passe à un autre moment dans le temps en avant et ce qui s'est passé entre on ne voit pas, on ne le sait pas et de façon presque logique, on va arriver à L'étude du feu en Amérique, qui est un film sur une immense ellipse qu'est la vie de Robert De Niro, enfin du personnage joué par Robert De Niro. Donc il y a cette sédimentation comme ça de grands blocs qui va devenir de plus en plus le modèle de mise en scène et de narration de Léone. Il est dans l'Ouest, c'est un film intéressant parce qu'on a toujours dit Léone fait un cinéma postmoderne, enfin on s'en fiche un peu des étiquettes, mais en tout cas qui ne parle pas des grands récits. On dit c'est la fin des grands récits, etc. Mais Il est sur l'Ouest, c'est un grand récit, mais c'est le grand récit de la fin.
Ouais.
C'est-à-dire que
la fin de la frontière.
C'est pas la fin de la frontière, c'est l'arrivée de la civilisation. Oui. Et pour lui, c'est très mélancolique, quoi. On préférait avant les hommes, etc. Alors c'est très cool parce que le film évidemment peut être aussi contesté parce que la civilisation, c'est le matriarcat, c'est Claudia Cardinal, etc. Et les vrais hommes doivent disparaître. Mais c'est ça l'histoire de Il était une fois dans l'Ouest.
Contrairement à l'extrait que vous nous avez choisi, donc, de cette fin de film et ce dialogue entre Jason Robards et Claudia Cardinal.
J'ai fait chauffer un peu d'eau. J'ai trouvé un rasoir.
Pose-le là, s'il te plaît. Que je puisse voir le chemin de fer avancer pendant que je me rase. Tu sais quoi? À ta place, j'irai porter à boire à ces pourvoirs. Tu te rends pas compte ce qu'un homme peut avoir de plaisir à regarder une fille comme toi. Rien que la regarder. Et si l'un d'eux s'avise de te pincer les fesses, fais comme si c'était pas tellement grave. Il sera heureux.
En cette période de MeToo, Jean-François Roger, cet extrait peut beaucoup choquer. On peut être révisionniste avec les films,
non plus. Ça serait bien. Ouais. faudrait arrêter. Oui.
Alors pourquoi avoir choisi cet extrait?
C'est le passage du temps, c'est-à-dire que elle va nourrir les ouvriers qui vont construire le chemin de fer, et puis Jason Robards, enfin le personnage de Cheyenne va mourir, ouais. Henry Fonda et Bronson vont se battre à mort, et puis le survivant va disparaître. Et à un moment donné, il y a ce dialogue entre Henry Fonda et Bronson juste avant le duel. Il lui dit, Henry Fonda lui dit, j'ai compris que je n'étais pas un homme d'affaires. Non. Bronson lui a dit, tu as compris que tu n'étais pas un homme d'affaires, puisque Fonda voulait avoir des parts dans le chemin de fer.
Ouais.
Bronson lui a dit, tu as compris que tu n'étais pas un homme d'affaires, et Fonda lui dit, non, juste un homme. Et là, Bronson dit, une race très ancienne. Donc voilà, on est dans aussi cette vision, des rapports hommes-femmes et de la mère en fait. Claudia Cardinal, ça va être la mère de tous ceux qui vont construire la civilisation. Ben, elle va apporter de l'eau à la fin du film pendant que les vrais hommes disparaissent. Enfin, c'est un peu ce que raconte le film.
On signale que L'Étude du feu dans l'Ouest ressort la semaine prochaine en version restaurée et que c'est un film à voir sur grand écran.
Et vous disiez que c'était
dans la grande salle de la Cinémathèque, ça va être épatant.
Et vous disiez que c'était grâce à un petit peu le film a eu énormément de succès en France.
Alors le succès de L'Étude du feu dans l'Ouest, il a été fait par les Français en fait. C'est-à-dire que le film est une déception aux États-Unis. Et c'est une déception en Italie. C'était en fait les films de le plus gros succès de Léone en Italie, c'est Pour quelques dollars de plus. Et après, ça n'a pas arrêté de descendre. Et puis tout d'un coup, les Italiens ont préféré Trinita. Je crois qu'au même moment, un peu après, sort les Trinita. Et ça casse la baraque. Donc des westerns parodiques, un peu des pantalonnades, etc. Et donc, alors évidemment, ça mettait Léone en colère de voir que ces films ne rencontraient pas le succès attendu en Italie. Alors, en France, on a beaucoup aimé ça très vite. Et Il était une fois dans l'Ouest est en tête, enfin est deuxième au box-office des succès en France, juste après La Grande Vadrouille, pendant des années.
Et d'ailleurs, Léon dit qu'il n'y a qu'en France que L'Il était une fois la Révolution s'est appelé Il était une fois la Révolution, et c'était le titre qu'il voulait vraiment, parce que sinon le film s'appelle Giù la testa,
baisse la tête.
Voilà, donc ça n'a rien à voir, et donc la France a quand même une importance pour lui particulière.
On va passer à Il était une fois la Révolution, le mythe de la Révolution mexicaine, ses idéaux, ses mécanismes, la Révolution c'est la confusion, disait Léon, et à ce propos vous avez choisi cet extrait assez remarquable entre James Coburn et Rod Steiger sur l'esprit de la Révolution justement.
Alors ton pays, tu t'assieds dessus.
C'est pas mon pays. Tu sais qui c'est mon pays? C'est moi et ma famille.
Ouais, d'accord, mais ton pays, c'est aussi Huerta. Les propriétaires terriens et le gouverneur. Gunther Eza et ses sauterelles. Tu sais, la Révolution, c'est pas une plaisanterie.
La Révolution? La Révolution, c'est pas à toi, nom de Dieu, à me parler de Révolution. Je sais très bien comment ça éclate, c'est des gens qui savent lire dans les livres, qui vont voir ceux qui savent pas lire dans les livres, les pauvres gens, quoi. Et puis ces types-là leur disent, ah, le moment est venu de changer tout ça. Si, merde. Je sais très bien de quoi je parle, ces putains de Révolution, j'ai grandi tant. Tu comprends, ceux qui savent lire dans les livres vont voir ceux qui ne savent pas lire dans les livres, les pauvres, et disent ici, ils font du changement, et les pauvres bougres font le changement. Après ça, les plus malins de ceux qui savent lire s'assoient autour d'une table et ils parlent et ils mangent et ils mangent et ils parlent et ils parlent et ils mangent. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, les pauvres pauvres? Ils sont morts! C'est ça, ta révolution! S'il te plaît, ne me parle plus de révolution.
C'est Léon qui parle là, sceptique face aux révolutions.
Bah, c'est ça, c'est-à-dire que le film, en fait, si on regarde un peu attentivement, il répond à une série de films qui sont tournés depuis le milieu des années 60 en Italie, qui sont des westerns zapatistes ou des westerns révolutionnaires, où en gros la révolution mexicaine est une métaphore des luttes anti-impérialistes. Et ce sont des westerns écrits par des gens comme Solinas, par exemple, des marxistes italiens, etc. Et donc où, en gros, des westerns qui exaltent à la fois la révolution populaire et la rencontre avec la technique qui est jouée souvent par qui est incarnée par un gringo joué par Franco Nero par exemple, donc avec l'idée évidemment de l'avant-garde et de la révolution populaire. Et donc Il était une fois la Révolution est un film qui est contre les idéologies révolutionnaires du monde. C'est un film, on peut dire, qui est à la fois anarchiste et qualunquiste de cette idéologie italienne des années 50 qui exalte l'homme ordinaire, on pourrait dire populiste aujourd'hui si ce terme était voilà. Et le film est en fait un film très très dur contre eux. Enfin, c'est l'antithèse de ce que disaient les westerns révolutionnaires de les westerns qui mettaient la révolution mexicaine en scène. Et donc c'est assez marquant. C'est un film assez bizarre à cause de ça.
Il nous reste malheureusement une minute, mais c'est terrible, pour écouter la mélodie de Il est une fois en Amérique qu'on va passer immédiatement. L'histoire d'un homme qui recompose son passé avec comme point d'ancrage une fumerie d'opium. A-t-il vécu? L'a-t-il rêvé?
Je voulais souligner la dimension élégiaque dont t'as déjà un peu parlé, François, du cinéma de Léon qui passe pas mal par les mélodies de Morricone, qui est quand même aussi un très grand mélodiste, et que cette dimension-là, qui a peut-être pas été si vue que ça au moment des... Enfin, si, pour Il était une fois en Amérique, oui, mais pour les films d'avant, peut-être moins contemporainement à leur sortie. Moi, c'est ce qui me frappe le plus aujourd'hui. Je me rappelle d'ailleurs qu'à la mort de Léon, dans les cahiers du cinéma auquel à l'époque j'appartenais, Bill Crone, qui était le correspondant américain, avait écrit un texte où il parlait de la dimension proustienne de Léon, et c'était la première fois que je voyais écrit ça, et ça m'avait frappé parce que je m'étais dit, oui, au fond, Léon, ce pourquoi on l'aime le plus aujourd'hui, c'est ça.
Quoi. Un grand mélancolique.
Et c'est donc, c'est vous confirmez, hein, parce qu'à un moment, il y a une réplique, on lui dit, qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années? Et il répond,
je me suis couché tôt.
Voilà.
Donc,
donc il avait lu Proust, Léon.
Il a des chances.
Bon, le film a été massacré par son producteur américain, Arnold Milchan.
Pour la sortie aux États-Unis, c'est-à-dire toute la déconstruction du temps qui est vraiment la structure du film, enfin sa raison d'être, a été détruite par le producteur américain pour l'exploitation aux États-Unis. Je pense que maintenant, aux États-Unis, on peut voir, enfin, sans doute en DVD ou la bonne version, mais il n'a pas eu de chance avec... les Américains n'ont pas compris son cinéma. Il n'a pas eu de chance avec ce film-là, comme il n'a pas eu de chance avec Il était une fois la Révolution, qui lui aussi est un film qui a été extrêmement coupé, qui est sorti sous le titre A Fistful of Dynamite, donc une poignée de dynamite,
ouais.
Donc pour rappeler les westerns des années 60. Mais voilà quelqu'un qui a pensé la culture américaine et qui n'a pas été compris par les Américains.
Tout le reste est dans l'exposition. On a hâte de la découvrir. Vous l'avez un petit
peu. Ah oui, elle est très très bien parce qu'elle est à la fois, il y a du fétiche, hein, mais ça se prête hein, à les costumes.
Mais il y a
le poncho
de Clint.
Vous verrez le poncho, etc. Et puis, mais il y a aussi de la réflexion, il y a de la pensée, il y a des mises en rapport entre des extraits, des images, et puis il y a des documents absolument très très émouvants, quoi.
Et on reflète le catalogue.
Catalogue, la Révolution, Sergio Leone. Vous restez avec nous, on se retrouve après Kurt Weill.
Exoskeleton, I slip and squirm through the cracks, creep around by all the loading zones in my dirty little town. Get my shopping done, laundry too, drop some dead weight, clean my hands of what I need to clean my hands of. And all for free, by mayoral decree, all from zone to loading zone of my. But oh so gorgeous the way they crave. How beautiful to take a bite out of the world. I wanna rip the world a new one. It just crawls out of my mouth anymore. You can hate on it, or you can hug it. You can get all mushy and lovey-dovey. It's all the same when I'm out there driving around. All from zone to loading zone of my beautiful town. I park for free. One-stop shop life for the quick fix before you get a ticket. That's the way I live my life.
Oui, c'est trop court, Thierry Jousse. La mort de Charles Aznavour, largement évoquée cette semaine, Aznavour et sa carrière de comédien 80 films et téléfilms. Avant de l'évoquer, cet extrait des fantômes du Chapelier Chabrol face à Michel Serrault.
Oh. Petit cachou d'as. Quelle aventure, hein? Mais d'où venez-vous? Où êtes-vous né?
C'est loin. Mais c'est très loin. Moi, je suis né à Yerevan, en Arménie. Mon père, il était tailleur déjà. Nous étions 5 enfants et j'étais le dernier. Un jour, mes 3 frères aînés sont morts. On n'a jamais su exactement ce qui s'était passé. Alors mon père, ma mère, ma sœur et moi, on est partis pour Ankara, en Turquie. On a été très pauvres, là. On est resté encore 2-3 ans à Ankara avec mon père. C'est là que j'ai appris le métier avec lui. Et puis on a pris un bateau pour l'île de Chypre. Et là, j'ai perdu mon père. J'avais 17 ans. Il m'a fallu gagner ma vie, mais c'était pas possible comme tailleur. Heureusement, j'ai trouvé un engagement sur un bateau français qui partait pour Marseille. Je vous ennuie avec mes histoires, n'est-ce pas?
Non, pas du tout, mais je dois aller à l'évêché, on m'y attend. Bon, restez là, je n'en ai pas pour longtemps.
Je suis bien ici, monsieur, vous savez.
Aznavour est des débuts précoces au cinéma. 1938, oui, oui. Les disparus de Saint-Agile, Laurent.
Oui, absolument. Belle, très, très belle carrière aussi au cinéma, avec beaucoup de hauts et quelques bas, il faut bien le dire. Lui-même disait qu'il avait tourné beaucoup de navets, donc il était lucide.
On va passer aux sorties de cette semaine. On va commencer par un doc, tiens, 16 levées de soleil de Pierre-Emmanuel Le Goff à 450 km de la Terre, voyage en apesanteur avec Thomas Pesquet, 6 mois dans la station spatiale, accompagné par Saint-Exupéry, un film documentaire onirique sur l'espace.
Ben, c'est-à-dire que moi j'y allais un petit peu reculons, parce que quand j'ai lu comme vous le pitch Tintin dans l'espace qui lit le petit prince de Saint-Ex, je me suis dit, oula, c'est pas pour moi. Donc, ça va être très kitsch. Et en fait, alors c'est un peu kitsch, parce qu'il y a ça, il y a cette voix blanche qui lit du Saint-Exupéry, ça passe pas du tout. Mais, moi ce qui m'a passionné, c'est que enfin, au cinéma, on voit l'intérieur d'un véritable vaisseau spatial, et c'est l'antithèse de ce qu'on voit d'habitude dans les films de fiction, où tout est bien rangé, tout est très blanc, tout est parfait. Là, c'est un bordel, mais sans nom. Évidemment, ils sont obligés, à cause de la pesanteur, de tout ficeler dans l'espèce de pactage incroyable. Donc, ça donne une vision, enfin, réaliste, réelle, parce que c'est la vérité, de l'intérieur d'un vaisseau. Quand on aime le cinéma de science-fiction, on va adorer. Et il y a un moment extraordinaire où où Trump essaye de parler à deux spationautes américains qui n'en ont aucune envie. Ça, c'est un moment de fausse fiction formidable.
Nos batailles, du réalisateur franco-belge Guillaume Sénèze, dont le premier film Keeper était déjà une belle promesse. Nos batailles confirment ce talent. Il raconte la disparition d'une mère et les efforts d'un père, c'est Romain Duris, pour empêcher la dislocation de son foyer. Un homme, chef d'équipe dans son entreprise, qui doit affronter une crise après un événement traumatique, gérer des hommes, les conflits entre ouvriers et direction, pression, révolte, cadence de travail. C'est le volet social du film, tandis qu'une autre bataille intime se livre chez lui, et il est pour rechercher sa femme, s'occuper de ses enfants, une course contre la montre. Sénèze a sa méthode, chaque situation est posée, mais à l'intérieur, les acteurs vont improviser, c'est dangereux. Mais ça marche, et c'est ce qui donne à l'arrivée ce ton si juste, si naturel, et pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment du départ de la mère. On a compris à quoi elle a voulu échapper à cette charge mentale. Grand film sur l'époque, tenu par de grands comédiens, Duris, les enfants, Laetitia Doche et leur Calamy.
Ben, j'ai peu de choses à ajouter, parce qu'on est tout à fait d'accord. Moi, je l'ai vécu, j'ai vu le film comme l'anti-Stéphane Brisé, l'anti-Anguère et l'anti-Vincent Lindon, c'est Romain Duris. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, effectivement, de ne pas forcer le réel au point d'en faire quelque chose de très tendancieux. Et c'est en cela que Nos batailles est, à mon sens, très réussi.
Oui. Blindspotting, premier film de Carlos López Estrada, américain d'origine mexicaine. Oakland, USA, deux amis travaillent comme déménageurs. L'un, Colin, attend sa liberté conditionnelle. Il sera témoin d'une bavure policière, un électrochoc qui va le remettre en question. Le scénario est écrit par les deux acteurs David Diggs et Rafael Casal, rappeurs et slammeurs, et apparemment ils savent de quoi ils parlent.
Absolument, c'est ça qui fait la force du film. On a l'impression parfois d'un Spike Lee réussi. Je parle de Spike Lee maintenant, parce qu'avant Spike Lee réussissait les films. Mais donc on a effectivement l'impression comme ça de se souvenir de ces espèces de comédies et de drames mélangés que savait parfaitement faire Spike Lee, avec un vrai discours politique fort sur le racisme, sur les noirs et les blancs, etc. Donc c'est parfois maladroit, parce que ça reste un premier film avec les maladresses inhérentes, mais en l'état, et pour ce que ça dit de ce racisme-là, de cette réalité-là, c'est un film intéressant.
A Star is Born de Bradley Cooper, oui. Premier film comme réalisateur. La quatrième version de la même histoire après Wellman, Cukor et Pearson. L'éternelle histoire de la star montante qui va éclipser son amoureux Pygmalion. Dans cette version, lui est chanteur de country fatigué, c'est donc Cooper qui joue aussi. Et elle, une artiste pop, c'est Lady Gaga, et son premier grand rôle au cinéma. Le scénario est prévisible, normal, à force, on connaît déjà l'issue, et Cooper n'y ajoute pas beaucoup de singularité. Dommage, parce que après une première heure plutôt réussie, la rencontre, le film s'enfonce dans le mélo tire-larme. Reste la sincérité de l'entreprise, des scènes de concert très impressionnantes. Ils chantent tous les deux en direct, et quand ils jouent, ils y croient vraiment. Sans cynisme, sans premier degré, un duo très convaincant, elle, Lady Gaga, sans maquillage, et lui, Cooper, dévoué totalement à son rôle. Et ce sentiment, je l'avoue, à l'arrivée, un plaisir assez coupable. Voilà.
C'est bien de l'avouer.
Crise de Suisse de Anja Kofmel, Croatie, janvier 92, en plein conflit yougoslave. Chris, jeune journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans les mystérieuses circonstances. C'est sa nièce qui réalise ce film et qui se demande où est passé cet oncle mythique pour elle. Et cette question lancinante, je veux comprendre pourquoi un jeune homme qui a grandi dans un pays en paix rejoint une guerre lointaine où il a perdu la vie.
Oui, c'est un très beau documentaire parce qu'il y a cette question qui traverse tout le film, qui n'y apporte pas de réponse, et c'est aussi très très bien comme ça. Ça démarre quand même par... Elle appelle Carlos dans sa cellule, oui, le terroriste, et Carlos lui dit « Ouais, mais votre cousin, c'est un espion suisse, c'est bien connu, c'est pour ça qu'il est mort, oubliez-le, de toute façon, c'est un métier où on prend des risques, voilà. » Donc il y a ce commencement surréaliste, et cette enquête est très 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 d'autant plus belle que elle est également dessinatrice, cette réalisatrice, et que elle recrée ce qu'elle n'a pas pu voir effectivement de la vie de son cousin à travers ses dessins qui sont assez stylisés, assez beaux, noir et blanc, et qui donnent une épaisseur, une humanité profonde à ce personnage qui quand même termine avec un groupe d'extrême droite. Donc on a beaucoup effectivement de mal à comprendre ce parcours. Ça reste un mystère et ça reste de ce point de vue-là une sorte d'épopée moderne incroyable.
La saveur des ramen d'Eric Kou. Les ramen, c'est un plat de nouilles accompagné d'un bouillon de porc ou de poisson, vous l'aurez compris pendant tout le film. Après la mort brutale de son père, grand chef de ramen donc au Japon, Masato, son fils, décide d'aller à Singapour, dont il est originaire, pour retrouver le goût des plats liés à la mémoire de sa mère et de sa grand-mère. Voyage culinaire, quête d'identité, acceptation, pardon au père, réconciliation avec la grand-mère. Le plat est chargé, mais surtout dilué dans tant de sentimentalisme qu'il en devient mièvre, vraiment niais. Loin, si loin des tampopos ou des délices de Tokyo. Littéralement, le film vous laisse sur votre faim. Alors profitez-en dès la sortie pour aller déguster ces ramen. Et là, peut-être, vous n'aurez pas perdu votre soirée.
Ouais, enfin le problème c'est que la cuisine asiatique est en belle cuisine. On va passer au udon, au boboon, au canard laqué, au calamar à la citronnelle. Enfin, je veux dire, le nombre de plats à décliner en film, ça va faire quand même beaucoup. Parce qu'après Kawase, donc moi j'ai pas du tout aimé les délices de Tokyo. C'est exactement pareil. C'est-à-dire c'est une espèce de saupoudrage de cuisine asiatique. Alors effectivement, bon, on peut peut-être zapper le cinéma et aller directement au restaurant.
Frères ennemis de David Olofen, c'est le sujet qui est dans le titre, un postulat classique. Deux frères, un truand, un flic, élevés dans la même cité, un polar noir et social, tenu par deux grands acteurs quand même, Mathias Connard et Reda Kateb.
Mathias Connard et Reda Kateb, oui, j'avoue que le second, Reda Kateb, fait plus le boulot que le premier, qui est un petit peu quand même en service commandé et qui fait pas extrêmement bien le job, alors que le film est intéressant parce qu'il évolue dans ce cadre extrêmement restreint, on a l'impression d'avoir vu 250 000 fois un flic et voyou dans une banlieue, et en même temps, comme il y a une vraie attention au lieu, ce qui est très très important, c'est-à-dire cette banlieue parisienne et Paris, et au centre, il y a ce personnage de Reda Kateb qui arrive lui, pendant moi à exister pleinement.
Shut Up and Play the Piano, c'est un film de Philippe Jedic sur le musicien Chili Gonzalez, compositeur, pianiste virtuose et showman.
Oui, alors c'est curieux cette mode des films sur quelqu'un produit par lui-même. On a déjà le pape François et Wenders, là on a Chili Gonzalez qui coproduit le film. Moi je veux bien, mais au bout d'un moment on se dit que c'est quand même la complaisance est pas loin. Eh ben la complaisance est pas loin, effectivement, à l'exception d'un moment formidable où il y a un chef d'orchestre tout à fait classique, tout à fait éminent, qui a bien voulu jouer avec Chili Gonzalez et qui quand même explique que Chili Gonzalez n'aurait jamais franchi les portes d'un conservatoire tellement il joue mal. Donc voilà, ça c'est une réalité intéressante. Alors après cette espèce de clone entre Django Edwards et John Turturro, ben ça donne effectivement un personnage de comics presque, voilà.
On va terminer avec...
Bah, on dit que le fanfaron ressort.
On a du temps pour en parler, n'est-ce pas, Jean-François Roger? Est-ce que c'est un film que vous aimez, le fanfaron?
Ah, beaucoup, oui. Ouais.
1962, Dino Rizzi, Jean-Louis Trintignant.
Oui, c'est un grand film parce que c'est la comédie italienne, c'est des films où on rit mais il y a des morts.
Voilà. Et avec une Lancia Aurelia B24 avec un...
Absolument. Un biton et je me souviens avoir rencontré Dino Rizzi, l'avoir interviewé toute une après-midi, c'était formidable. Il racontait qu'en fait le personnage de Gassman est inspiré d'un personnage qui existe vraiment, qui était un ami à lui, qui faisait 200 km pour dans un restaurant, découvrait que le restaurant est fermé, il disait c'est pas grave, on va dîner chez le prince de Liechtenstein, il repartait dans l'autre sens. Et il cassait, lorsque son équipe de foot perdait, il cassait l'autoradio à coups de chaussures, ce genre de personnage. Donc c'est là on est dans le réalisme, en fait, tout à fait.
Pour revenir à Léon, je voulais vous poser cette question à chacun, c'est un peu difficile d'y répondre. C'est quoi votre Léon préféré, Thierry Jousse?
Je crois que c'est quand même Il était une fois en Amérique, même si j'ai une tendresse particulière pour Il était une fois dans l'Ouest, parce que je pense que c'est le premier film que j'ai vu de Léon au cinéma et que c'est une expérience inoubliable. Il faut quand même, on n'a peut-être pas rappelé, mais l'expérience de découvrir les films de Léon, enfin à l'époque on les a découverts, pour ceux qui ont malheureusement déjà un âge respectable, c'est quand même quelque chose d'unique. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut peut-être plus connaître aujourd'hui de la même manière, quoi. Je veux dire, ce type de cinéma un peu plus grand que nature, en quelque sorte, plus grand que le réel, ça participe d'une expérience inoubliable.
Jean-François Rougier.
Moi, je peux pas répondre à cette question, ouais, parce que ça change tout le temps. Et en fait, le fait de réfléchir à cette question nous montre à quel point les films sont assez différents. Je pense que, voilà, pour longtemps, ça a été Le Bon, la Brute et le Truand pour le côté picaresque et humoristique. Et le film est drôle, Une fois dans l'Ouest pour la dimension, la réflexion sur l'histoire, etc. Mais moi, j'aime beaucoup Il est une fois la révolution, dans la mesure où quand je l'ai vu la première fois, je l'avais pas aimé. Et donc c'est un film qui a travaillé, qui a vraiment travaillé de plus en plus. Et en fait, c'est très très beau. Voilà.
Tous les Léon seront programmés à la Cinémathèque.
Tous les Léon seront programmés à la Cinémathèque, dans la grande salle. donc la semaine prochaine, et ensuite tous les samedis soirs jusqu'au mois de janvier, il y aura un film de Léon dans la grande salle de la Cinémathèque.
Génial. Il en a pas fait beaucoup.
Hein. Non,
non.
Voilà. Ça permet ça.
Les copies sont belles.
Les copies sont belles. C'est les restaurations les plus récentes, et on est assez fiers de montrer la copie 35 mm. En Amérique, qui est la copie de la sortie du film en France dans les années 80. Ouais. Donc c'est cette version-là qui, moi, je pense, est la meilleure.
Ouais. Précipitez-vous à cette expo. Oui. Il était une fois Sergio Leone à la Cinémathèque. Merci beaucoup Thierry Jousse, merci beaucoup Jean-François Rougier. Et on vous confie les clés du générique.
Une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux étaient choisis par Muriel Pérez.
Rebecca de Nantes s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Xavier Pestugia.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi Thierry Jousse, j'y étais.
Et moi Jean-François Rougier, j'y étais.